Et le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et à la une, des discriminations à la fac, théoriquement ouvertes à tous. Les universités sont épinglées dans une étude inédite. Elle révèle que les candidats d'origine maghrébine sont pénalisés lorsqu'ils se renseignent sur les masters. Le détail à suivre. Y a-t-il eu faille du renseignement avant l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray? Les parties civiles aimeraient bien le savoir, mais les policiers concernés ne veulent pas venir témoigner au procès. On va vous expliquer. Dans ce journal aussi, Christiane Taubira lâchée par les radicaux de gauche et peut-être une nouvelle médaille ce matin pour le biathlon français aux Jeux de Pékin.
Au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes, c'est aujourd'hui les grands reporters à l'Obs, Mathieu Aron, Caroline Michel Aguirre pour leur livre Les Infiltrés, sous-titre Comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État. C'est aux éditions Alary. Et l'université, Alexis, n'échappe pas aux discriminations.
Oui, une étude inédite vient d'être menée dans une vingtaine de facs françaises. Elle s'est intéressée au master, souvent la dernière étape avant l'entrée sur le marché du travail. France Inter vous en révèle ce matin les résultats. Ils sont préoccupants et vous allez l'entendre, pris très au sérieux par les présidents d'université. Claire Chaudière, les chercheurs ont testé notamment le critère de l'origine des candidats.
Pour mesurer ce qu'on appelle les biais de sélection, des personnes clés ont été ciblées, les responsables de formation de 607 masters au total. À chaque fois, trois emails quasi identiques ont été envoyés, trois demandes d'information sur ces masters, à l'image de ce qui se fait régulièrement. L'un des expéditeurs signale être en fauteuil roulant, pour les deux autres, seul le nom varie.
Par exemple, Julien Garnier contre Rachid Saïdi.
Yannick Lorty, professeur à l'université Gustave Eiffel, a coordonné ce travail. Pas de différence face au handicap, conclut-il, mais pour le reste...
Les candidats d'origine maghrébine sont effectivement pénalisés dans leur démarche, puisqu'on leur indique moins fréquemment la marche à suivre pour déposer leur dossier. Des différences qui s'apparentent à des discriminations, ce qui est un élément très préoccupant et qui prend à contre-pied l'esprit même de l'université.
12% de chance en moins au global de recevoir une réponse et jusqu'à 30% même dans les filières juridiques, très demandées. Pour Manuel Tunon de Lara, qui représente les présidents d'université, cette étude solide doit déclencher une prise de conscience.
Bien sûr, on doit s'en préoccuper. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de main et on peut peut-être en faire un outil de surveillance. Nous, on souhaite s'en saisir, bien évidemment.
En identifiant pour commencer les facteurs de risque comme les filières en tension, en formant, dit-il, et en répétant régulièrement ce type de testing.
Et les chercheurs à l'origine de cette étude doivent lancer aujourd'hui un observatoire national des discriminations dans l'enseignement supérieur.
Des témoins se font porter pâle au procès de l'attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Les trois hommes sont jugés depuis hier à Paris. Il s'agit des proches des terroristes qui ont assassiné le père Hamel le 26 juillet 2016, car ces deux assaillants ont été tués ce jour-là. De grands absents donc dans le box, mais aussi parmi les témoins, et pas n'importe lesquels, des agents du renseignement de la préfecture de police devaient être entendus à la demande des parties civiles. Selon Mediapart, ils ont eu accès une semaine avant l'attentat à la messagerie Telegram d'un terroriste. Il y évoquait alors une attaque dans une église. Mais Ariane Grissel, la plupart de ces témoins précieux ont présenté un certificat médical pour ne pas assister au procès.
Ils sont 4 agents sur 5 à avoir envoyé un certificat médical, un nombre et une simultanéité qui agacent du côté des parties civiles. La directrice des policiers a également écrit à la cour, elle se propose de venir à la place des fonctionnaires. Ils sont brisés psychologiquement, dit-elle, par cette affaire mettant en cause leur probité et traumatisés pour certains par l'attentat à la préfecture en octobre 2019. Inaudible pour les avocats des proches de Jacques Hamel, qui rappellent que leurs clients sont bien placés pour connaître le traumatisme d'une attaque. Maître Francis Piner dénonce une dérobade de la part des agents.
Il ne s'agit pas de les juger, il s'agit d'expliquer, de tirer éventuellement un certain nombre de leçons sur les failles, sur des difficultés qu'ils pourraient avoir. Mettez-vous à la place des familles. Quelqu'un vient de mourir, ils ont envie de savoir s'il y avait eu ou pas une chance d'empêcher cet attentat. Et ceux qui peuvent apporter la réponse, ce sont ces policiers.
Une réponse d'autant plus attendue que, en l'absence des terroristes, les parties civiles redoutent de ne pas obtenir d'explications par ailleurs. Roselyne Hamel, la sœur du prêtre assassiné, précise ne pas vouloir culpabiliser ces policiers, mais pointer leur éventuel manque de moyens. Que la vérité soit dite, implore-t-elle, pour qu'il n'y ait plus de massacre. Plus jamais ça.
Et la cour d'assises spéciale doit décider dans les prochains jours si elle renonce définitivement à entendre ses agents du renseignement. Un ancien patron d'Orpea dans le viseur de la justice. Le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire pour délit d'initié. Selon le Canard enchaîné, Jean-Yves Lemann, ex-directeur général, a vendu pour 580 000 euros d'actions l'été dernier, trois semaines après avoir appris la parution prochaine du livre Les Fossoyeurs. Aujourd'hui, c'est un autre ancien dirigeant du groupe qui devra lui s'expliquer devant les députés. La commission des affaires sociales de l'Assemblée doit entendre Jean-Claude Bredin, qui a géré pendant plus de 10 ans les EHPAD d'Orpea. Le rapporteur Thomas Meunier compte beaucoup sur cette audition car il est resté sur sa faim il y a 2 semaines lors de la précédente audition des patrons actuels d'Orpea.
On a eu clairement aucune réponse aux questions qu'on posait, malgré des relances nombreuses. On a parfois eu le sentiment de recevoir une leçon d'EHPAD pour les nuls, alors que c'est dans cette commission des affaires sociales qu'est voté chaque année le budget de la sécurité sociale et donc des EHPAD. On voulait comprendre notamment le circuit financier mis en place avec d'éventuelles marges arrière qui sont évoquées dans le livre « Les Fossoyeurs ». Quand on avait des éléments de réponse, il tenait plutôt à renvoyer la charge sur l'État ou sur le département, mais jamais sur le fonctionnement lui-même du groupe.
Et pour vous, justement, en quoi l'audition de Jean-Claude Bredin qui est intéressante aujourd'hui ?
Lui, précisément, il a été directeur général délégué du groupe. Il avait en charge l'exploitation, le développement du groupe. Et donc, on peut penser qu'il était à la meilleure place pour justement définir certaines orientations. Et donc, on espère qu'il aura les réponses aux questions que nous nous posons.
Le député LREM Thomas Meunier avec Fabien Cazot. Le pass vaccinal, soudainement désactivé ce matin, la mauvaise surprise pourrait concerner jusqu'à 4 millions de Français, faute de doses de rappel faites à temps, car c'est aujourd'hui que le délai pour ce rappel passe de 7 à 4 mois. Au Canada, après plus de 2 semaines de blocage contre ces mesures sanitaires, Justin Trudeau opte pour les grands moyens. Le Premier ministre annonce l'entrée en vigueur de la loi sur les mesures d'urgence, qui donne des pouvoirs très importants aux autorités fédérales. C'est seulement la 2e fois qu'on y a recours au Canada en temps de paix. Comme tous les mardis avant la présidentielle, le Conseil constitutionnel doit mettre à jour aujourd'hui la liste des parrainages pour chaque candidat. Et cette quête des signatures devient un chemin de croix pour Christiane Taubira. Elle vient d'être lâchée par le Parti radical de gauche. Le PRG se met officiellement en retrait de la campagne. Antoine Gignot.
C'est écrit dans la lettre envoyée aux militants du PRG. Le rassemblement de la gauche n'est plus possible. Si Christiane Taubira continue malgré tout sa campagne, seul le Parti radical de gauche ne peut plus la soutenir, explique Guillaume Lacroix, son président.
On avait proposé des primaires, on avait proposé une coalition en disant qu'on ne pouvait pas dans ce moment préférer son parti à son pays. Moi je suis désolé de l'irresponsabilité générale et collective qui aujourd'hui préside à gauche, une irresponsabilité qui est une faute politique et une faute morale.
Conséquence de ce retrait, Christiane Taubira perd le soutien de 300 élus, 300 parrainages potentiel, un coup dur pour la candidate qui n'en compte pour l'instant que 47, même si Léonie Buaillon, l'une des porte-paroles du collectif Taubira pour 2022, espère toujours que les élus qui se sont engagés à soutenir l'ancienne ministre de la Justice vont tenir leurs promesses.
Le parrainage ou le marrainage de certains élus va nous aider, on va continuer d'y croire jusqu'au bout, j'ai envie de vous dire, mais effectivement c'est un échec, les stratégies politiques politiciennes empêchent l'union en fait.
À défaut d'union ou de soutien politique, c'est donc désormais des initiatives individuelles dont dépend la campagne de Christiane Taubira qui lance en parallèle un appel aux dons.
Et Christiane Taubira réagit sur Twitter. Les partis ont leurs limites, leur agenda n'est pas le mien. Fermez les guillemets. Les États-Unis déménagent leur ambassade en Ukraine face au risque d'une attaque imminente de Moscou. Les diplomates américains partent s'installer à Lviv, bien plus à l'ouest que Kiev. Mais les Occidentaux veulent encore croire à la diplomatie. Le chancelier allemand Olaf Scholz est attendu aujourd'hui au Kremlin. Pendant ce temps, les Ukrainiens, eux, ne savent plus trop s'ils doivent s'alarmer ou non. Thibault Lefebvre est à la frontière entre l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Reportage.
À gauche, le Bélarus. À droite, la Russie.
Russia.
Et du côté ukrainien, des camions au pas sur plus de 5 km qui attendent de pouvoir traverser.
traversé la frontière.
Je n'ai vu ni tank ni soldat, que ce soit en Biélorussie ou en Russie, c'est juste de la panique.
Vladimir est ukrainien et comme toutes les deux semaines, il part livrer sa marchandise en Estonie en passant par la Russie.
Pourquoi devrais-je avoir peur de la Russie? Je suis né en URSS. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Pourquoi devrait-on se déchirer?
90 km plus au sud, sur la route de Kiev, la pression monte d'un cran.
Regardez Donetsk, Lugansk, la Syrie. Regardez ce qu'il s'est passé. Les gens meurent quand ils restent dans les villes.
La ville de Tchernihiv serait la première à devoir se défendre si Moscou décidait d'envahir la capitale ukrainienne. Alors les autorités ont pris les devants en aménageant des abris anti-bombes dans les sous-sols. Sergueï Boldirev est le responsable de la sécurité.
Si des avions et des missiles sont déployés pendant les combats, alors ce sera malgré tout compliqué de se protéger de ces armes de destruction.
900 abris ont été aménagés pour une population de 250 000 habitants, essentiellement dans les caves et les parkings de la ville.
Thibault Lefebvre et Jérémy Thuil, envoyés spéciaux d'Inter en Ukraine. C'est la réponse de Facebook aux accusations de désinformation. Le réseau social lance aujourd'hui en France un fil d'actualité uniquement composé de contenus journalistiques, d'articles de médias classiques. Après les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l'Australie, Facebook News débarque donc chez nous grâce à un accord signé avec les éditeurs de presse, notamment les quotidiens nationaux et régionaux.
7h40, Quentin Fillon-Maillet en quête d'une cinquième médaille au JO de Pékin.
Et le biathlète français, déjà double médaillé d'or, est en lice ce matin sur le relais avec ses trois coéquipiers. Le relais que les Français n'ont jamais remporté aux Jeux d'hiver. Et c'est un peu une anomalie. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Anomalie que les Bleus veulent donc corriger ce matin. Ça vient tout juste de commencer, Jérôme.
Exactement, départ à 7h30 exactement avec 2h30 d'avance sur l'horaire initial, tout simplement parce qu'on prévoit des températures trop froides ce soir à la tombée de la nuit ici à Zhangjiakou et donc on a préféré faire ça en plein jour. Alors je vous rassure, il fait toujours aussi froid mais c'est vrai que ça peut être un petit peu moins mordant qu'à la tombée de la nuit. Ça vient de démarrer, on est dans le deuxième tour et c'est Fabien Claude qui a lancé ce relais masculin. Et vous avez raison Alexis de rappeler que la France n'a jamais trop brillé dans ce relais aux Jeux Olympiques. Trois médailles de bronze en 1994, en 2002 et en 2006, mais jamais de titre olympique, jamais vice-champion olympique. Et c'est vrai que c'est peut-être l'année ou la bonne pour les relayeurs français emmenés par Quentin Fillon-Maillet qui sera le dernier relayeur tout à l'heure et qui sera évidemment celui sur qui tout repose maintenant désormais, lui la star de ces Jeux Olympiques dans le camp français.
Merci Jérôme Val. Et déception cette nuit pour la skieuse freestyle Tess Ledeux. Elle ne termine qu'à la 7e place sur l'épreuve de slopestyle. Ça c'est pour Thomas Legrand.
Merci Alexis Morel, l'édito politique.